Il y a une chose qui est importante dire par rapport à l'art urbain, c'est qu'on est dans des villes. C'est ce qui caractérise quand même toute la dimension de, cette expression-là, c'est la ville. Et la ville avec ses murs, bien sûr. Alors symboliquement, qu'est-ce que c'est qu'un mur? C'est quelque chose qui nous sépare de quelque chose. Donc y mettre des images, c'est aussi d'une certaine manière ouvrir une fenêtre sur ce qu'il y a derrière. Mais ce sont les gens qui sont derrière.
Dans la ville, des mots, des couleurs, des images, sauvages ou clandestines, mais bien visibles. Se promener dans la ville comme dans livre ouvert, voilà la proposition aujourd'hui, alors que la galerie Agnès B., premier lieu d'art en France à exposer de l'art urbain, fête ses 40 ans avec une exposition intitulée « Sur nos murs ». Bonjour Karim Boukercha.
Bonjour.
Vous êtes l'un des meilleurs spécialistes en France de l'histoire du graffiti et vous signez justement le catalogue de l'exposition sous-titré « 40 ans de graffiti ». Est-ce que c'est le temps qu'il aura fallu pour transformer des voyous en artistes et des tags en œuvres d'art ?
Alors je ne sais pas si les gens qui peignent dans la rue sont nécessairement des voyous. C'est des gens qui avaient envie de s'exprimer.
Qui étaient accusés de vandalisme.
Oui, qui étaient accusés de vandalisme en effet. Donc, non, mais c'est vrai que la plupart du temps quand on inscrit sur un mur ou un métro où on n'a pas le droit, on est hors la loi. Mais en effet, il y a un chemin qui a été fait, finalement, par plusieurs vagues, parce que dès les années 80, on a des gens qui sont exposés. Et puis après, il y a des phénomènes de mode. Donc ça, voilà, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend.
Vous diriez que l'art urbain ou le street art, pour utiliser une expression américaine, est rentré dans les mœurs, dans les galeries, dans les musées et dans la culture ?
Je pense qu'aujourd'hui, oui, avec toutes les générations qui ont maintenant grandi avec, on peut voir aujourd'hui dans Paris, dans plusieurs villes du monde, des circuits street art, il y a de plus en plus d'expositions, de plus en plus de livres. Voilà, donc c'est quelque chose qui fait partie de notre culture aujourd'hui.
Mais pourquoi cet engouement ? Est-ce que parce que ce milieu de l'art cherche toujours du nouveau, à se renouveler, ou est-ce que c'est par principe un art démocratique et que donc il y a eu un engouement pour cette forme d'expression ?
Ça, je ne sais pas. Par contre, y a une chose qui est sûre, c'est que les artistes n'ont pas attendu le milieu de l'art, le monde de l'art, pour s'exprimer et prendre la parole. Donc, peu à peu, des gens s'y sont intéressés parce que c'était intéressant, parce que c'était un courant nouveau aussi. C'était pas rien que des adolescents à New York décident de peindre sur les murs comme ça, de créer un courant, un mouvement avec du style et surtout sans demander d'aval. C'est ça qui est important.
Cet art est large en fait, parce qu'il va de Christo qui a emballé l'Arc de Triomphe il y a quelques semaines encore, c'était une œuvre posthume mais quand même très très monumentale, à des mots écrits sur une palissade et je pense à cette artiste française mystique qui dit « s'offrir quand tout se vend ».
Oui, c'est
délicieux. Donc la palette est large.
La palette est très très large, en effet.
Mais comment est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette palette des courants, ceux qui utiliseraient davantage les mots, par exemple, ceux qui utiliseraient davantage la peinture, les bombes aérosols, et d'autres qui feraient de l'intervention urbaine type Christo ?
On a d'un côté les pochoiristes, qui souvent donc, font du figuratif et parfois ont accompagné ça de lettrage ou de mots comme Mystique. D'ailleurs, Mystique était justement sa particularité, elle, c'était de mettre des poèmes à côté de ses peintures. On a les graffeurs qui, eux, finalement, travaillent autour du mot, mais qui est autour de leur nom. Donc là, c'est exprimer ce mot avec le plus de style possible et le plus de fois possible. Après, on a d'autres artistes, en effet, qui vont être plus dans le figuratif, type, je sais pas, Jérôme Ménager, Gérard Zloty-Camien, voilà, qui donc vont finalement reproduire un motif ou un personnage qu'ils ont créé un peu partout. Et c'est le dialogue entre le lieu et ce personnage qui est intéressant.
Donc il y a une liberté des supports et des formes. Est-ce que vous diriez, comme ça c'est une formule un peu toute faite et rapide, mais que ces artistes urbains sont des poètes des rues ?
Pour moi, oui. Pour certains, non. Donc, oui, moi, j'y vois une poésie parce que j'y vois la trace de l'humain, quoi. Donc, dès qu'on a des gens qui, la plupart du temps, dans l'anonymat et dans un certain désintérêt, s'expriment dans la rue, j'y vois tout de suite, en général, une poésie.
Ça modifie l'espace urbain aussi.
Exactement. Ouais, tout à fait.
Et donc, ouais. Ça sert à ça, la poésie, peut-être, à modifier, à détourner, à décaler.
Ouais. Vous avez peut-être tous eu cette émotion qui est des fois que, alors qu'on fait peut-être pas attention aux tags et à plein de choses, et puis un jour, on tombe sur un en particulier, et là, il y a un temps d'arrêt, une émotion ou quelque chose qui nous marque. Donc, pour moi, ça fait évidemment partie de la poésie des villes, bien sûr.
Alors, on dit graffeur, mais je crois qu'en anglais, on dit writers.
Oui.
C'est-à-dire ceux qui écrivent.
Ceux qui écrivent, exactement.
C'est pas tout à fait la même chose, pourtant.
Non, parce qu'en fait, aux États-Unis, ce qu'il faut voir, c'est qu'ils ont commencé par écrire leur nom de manière la plus simple possible, donc en lettres bâton. Et puis, peu à peu, il y a eu de plus en plus de gens qui ont fait ça. Donc, la compétition est devenue d'écrire son nom avec le plus de style possible. Donc, peu à peu, les lettres se sont... Il y a eu des contours, donc c'est devenu des graphes, ce que vous pouvez souvent voir dans la rue, donc des lettres peintes. Et puis après, il y a eu des décors qui ont été à côté, des fois des choses plus abstraites, etc. Des personnages, donc c'est devenu entre le figuratif et les lettres.
De cette histoire de l'art urbain, nous allons faire vivre quelques phrases et quelques noms. Mais d'abord, « Vos hommes ont les mains sales », titre du nouvel EP de IAM.
Parce que les hommes sont ainsi faits. Yeah. Parce que les hommes sont ainsi faits. Mayday, mayday, ici la terre, planète en déroute. J'ai beau me casser les cordes vocales, y'a personne à l'écoute. J'ai beau prier, mais là je vois rien qui puisse freiner la chute. Et j'ai pas l'impression que l'espoir va devenir un culte. Ce monde est fait de briques, de broc et surtout de brut. Normal que nos vies soient remplies de chocs et de chut. Le cœur plein de bleu et de bosses, on cherche encore la route. Certains sont prêts à faire l'effort malgré ce qui en coûte. Tu peux me croire, ça fait un bail que je traîne dans les parages. Et j'ai vu tellement d'idiots bâillonner des sages. Ça se permet des carnages pour six pièces en bord de plage. Et nous en guise de barrage, on noircit des pages. Un jeu vicieux où le connard gagne à chaque fois. Et l'homme honnête nourrit le loup tapis dans chaque bois. Et vu comment ça évolue, ça va pas s'arrêter. Chaque jour la clameur diminue quand passe l'égalité. Que Dieu bénisse le bénéfice planétaire de vise. Combien de jeunes glissent, combien de gens vivent. Combien de coffres remplis, combien d'âmes vides. Et combien de sang pris coulant sur l'autel des sacrifices.
Trouver une justice dans ce décor qui est ignoble. C'est comme chercher un regard dans un monde qui t'ignore. Hein? Pour aider leur progrès, voudrait que nos valeurs changent. On crée, on n'attend plus le courrier de leur facteur chance. On se bat avec ce qu'on a, nos cœurs et nos cerveaux. Yeah. C'est les armes de ceux d'en bas pour affronter ceux d'en haut. Yeah. Dans le pays des ombres, c'est triste mais on s'y fait.
Orgueil.
Car les hommes sont ainsi faits.
Avarice.
Car les hommes sont ainsi faits.
Luxe.
Parce que les hommes sont ainsi faits. Pourquoi on boirait leurs paroles? Pourquoi on devrait faire confiance? On n'oublie pas que le diable était le frère des anges.
Personne ne m'a livré la joie dans le beau papier cadeau à Noël. L'État voulait un klebs, ils ont eu un poète. Désolé pour toute la déception. On n'était pas les bienvenus, donc on a retourné la réception. C'est entre soi le puissant, protégé dans un cocon qui fixe le prix du baril. Bien sûr, le cours du coton fait fusionner les noyaux, domestique les protons. Corrompt ce tas de chiffons pour qui nous votons. Pourquoi vivre 100 ans et assister à ça quand votre paix est financée par viol, vol et massacre? S'il te plaît, laisse-tu en dehors quand la connerie parle. Lui met pas de mots sacrés dans la bouche, cet homme a les mains sales. Un alphabet à 10 chiffres et le respect de rien. Mes rats témoignent du mal infligé au mien. Papa était cet oiseau libre, maman une fleur délicate. Ta science les a fait vomir au milieu du salon à quatre pattes. Il est loin le temps où on sautait dans les flaques, où tu mangeais la matraque pour un vrai combat à la fac, où on pensait pluriel. Pas qu'au jour de la zakat, dans le silence et colons, on tue la peau de Rabin et Arafat. C'est quoi ces hommes, c'est quoi ces forts avec les faibles, qui fourrent à fond les frais, les fantasmes, ce que font les frères. Postule à la municipale, ils vont bientôt embaucher. Suis l'épisode à la télé d'un géant vache au crochet.
Le retour de IAM, qui publie depuis cet été plusieurs EP, dont celui-ci baptisé 4e vague, après la première, la deuxième et la troisième, ça s'appelle du rap viral. Karim Boukercha, graffiti et musique hip-hop, c'est une histoire parallèle, enfin parallèle ou commune d'ailleurs.
Oui, commune, ouais. Même s'il y a certains graffeurs américains qui écoutaient du rock et qui se revendiquent d'autres musiques, il y a quand même quelque chose qui va avec le mouvement hip-hop, donc qui compose du graffiti, de la danse et du rap.
Et qui dit la rue, le mouvement, une nouvelle façon de s'adresser au monde et aux jeunes.
Ouais, mais surtout une énergie commune, je pense. Une énergie commune de prendre la rue, de s'exprimer sans demander la permission, sans... Voilà, on est juste à exprimer.
Vous évoquiez le rock, c'est vrai que si on doit parler des origines du graff, 40 ans d'histoire du graffiti, c'est le titre de l'exposition et de votre livre, mais on peut remonter un tout petit peu avant, il y a mai 68, où ouais. quand même les mots sont dans la rue, et dans l'exposition de la galerie Agnès B, il y a aussi les pièces de Raymond Hinz, par exemple, qui est un affichiste ouais. Des années... 50 plutôt.
Oui. Il y a eu quand même, avant le graffiti, il y a eu un art dans la rue, des gens qui s'y exprimaient. On a Pignon Ernest aussi qui faisait des collages déjà à l'époque. Le premier à s'être exprimé à la bombe de peinture, je crois que c'est Gérard Zolticamien. Et puis après, on a aussi dans le bouquin, la première exposition qui a été organisée par Agnès à la Galerie du Jour, c'était les frères Ripoulin. Qui étaient, eux, issus plutôt du punk rock.
Mais alors, pourquoi Agnès B se passionne pour cet art urbain? Agnès B, grande styliste, qui est aussi une grande collectionneuse et une grande amatrice d'art. Pourquoi, il y a 40 ans, elle se passionne pour cela et elle est la première en France?
Ben, déjà, elle a une histoire un peu personnelle avec les graffitis. Elle les a toujours remarqués. Elle raconte qu'elle en voyait quand elle était petite, dans le parc où elle se baladait, dans la gare qu'elle prenait pour prendre le train, etc. Et puis, je pense que c'était quelqu'un qui était très... qui est toujours d'ailleurs, mais à cette époque-là, à repérer ce qui se passe. On est une styliste, quelqu'un qui fait de la mode. Pas s'empêcher de regarder comment les gens s'habillent dans la rue, comment la rue évolue, comment la société française évolue. Et à cette époque-là, y a des gens qui s'expriment dans la rue, donc elle le voit bien. Elle a aussi un lien très fort avec New York. Et donc forcément, New York, c'est la mecque du graffiti. Donc voilà, tout ça fait qu'elle s'y intéresse. Et en effet, elle est la première à exposer différents courants en plus. C'est ça qui est assez rare, c'est-à-dire qu'elle n'a pas découvert que le graffiti. Elle a aussi exposé les frères Ripoulin, donc qui étaient des affichistes. Juste derrière, la scène des pochoirs, les gens un peu... Voilà, dans les années 80, on avait beaucoup, beaucoup de pochoirs dans les rues de Paris, etc. Et elle les a également exposés. Donc, il faut comprendre qu'à l'époque, c'est des gens qui n'ont pas du tout pignon sur rue. Donc, c'est même pas bien vu pour elle. Enfin, pour les autres galeries, par exemple. Pour elle, c'est bien vu. Mais pour les autres galeries, exposer ces artistes-là, c'est presque une aberration. En tout cas, une curiosité.
C'est subversif ?
Oui, totalement, oui. Oui. Il y avait plusieurs galeristes qui... Enfin, moi, il y a plusieurs artistes qui m'ont dit que... qu'il y a d'autres galeristes qui la regardaient du coin de l'œil et qui méprisaient ça, quoi.
Mais qu'est-ce qu'elle fait, Agnès B?
Voilà. Et elle apportait ça, et à travers le temps. C'est aussi ça qui est... Parce que des fois, il y a des gens qui découvrent quelque chose et puis après, qui passent à autre chose. Elle a découvert et puis elle a soutenu à travers le temps. C'est pour ça que l'importance de ce livre, il retrace quand même ça aussi, parce que c'est vraiment l'art urbain naissant en France qui est soutenu par Agnès.
Et qui continue à le soutenir.
Exactement.
Karim Boukercha, vous évoquiez les frères Ripoulin. Et parmi ce collectif, il y a Jérôme Faucheur, qui est l'un des membres les plus actifs de ce collectif et qui est encore actif aujourd'hui.
On n'est pas uniquement, si vous voulez, dans le graffiti ou dans le graff, dans une expression artistique. On est dans une culture, au sens très large du terme, c'est-à-dire une culture... où le corps est très présent et où le corps a besoin d'être réveillé. À la fin des années 70, il y a une forme, enfin, pour moi qui arrivais dans cette école et qui découvrait, par exemple, les arts déco et le monde de l'art, c'était quelque chose de très sec. Et tout d'un coup, il m'est apparu important de faire. Et faire dans la rue, c'est vraiment faire travailler aussi le corps. C'est vrai que ça, c'est une idée qui est importante pour moi, c'est-à-dire de remarquer à quel point, si vous voulez, dans la ville, on est complètement anesthésié. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les gens quand ils se baladent dans la rue. Ils sont enfermés, ils sont dans leur bulle. Et convoquer le corps par l'adrénaline, par exemple, qui est un petit peu la source vive du tagueur et du graffeur, c'est aussi réveiller son corps.
Jean Faucheur, qui est donc l'un des fondateurs des frères Ripoulin, si on le comprend bien, Karim Boukercha, il faut, pour être un bon graffeur, une bombe et de l'adrénaline.
Oui, en sachant que Jean et les autres frères Ripoulin, eux étaient des affichistes, donc en fait, ils peignaient des affiches en atelier et ils allaient les coller sur des 4x3 de publicité partout dans Paris. Donc, alors il y avait un peu d'adrénaline, il y avait une forme d'interdit, un interdit, mais par contre, ils n'utilisaient pas de bombe de peinture, eux.
En quoi il est novateur, Faucheur ?
Faucheur, pour moi, c'est quelqu'un qui a une courroie de transmission. Il était un peu plus âgé que les autres frères Ripoulin. Ils ont monté ce groupe. Derrière, il a eu aussi des liens avec les graffeurs d'autres générations. Donc, c'est quelqu'un qui est une des figures de l'art urbain importante et qui est un acteur, quoi.
Et qui mettait son numéro de téléphone sur les affiches.
Oui, alors à cette époque-là, parce que alors, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que la première génération d'artistes d'art urbain à Paris, c'est des gens souvent qui étaient aux Arts Déco ou aux Beaux-Arts, des choses comme ça, et qui cherchaient à trouver des galeries pour les exposer. Sauf qu'on est sous Giscard, si ma mémoire est bonne, que d'après leur dire, tout le milieu de l'art était totalement fermé et passéiste au possible, conservateur. Donc ils ont essayé, tous ces jeunes vintenaires, d'aller taper à leur porte. Ça n'a pas du tout marché. Et ils se sont dit, ça suffit, on va aller au-devant du public. Et donc ils ont fait ce système d'affiches et ils mettaient leur nom et leur numéro de téléphone. Donc ça peut paraître très candide, mais alors ce qui est dingue, c'est que ça a marché. C'est-à-dire que déjà l'agent des frères Ripoulin, qui était un agent de groupe de rock, qui travaillait chez Actuel, qui s'appelle Jean-Marc Patras, les a repérés comme ça. Derrière, Agnès, pareil, voit une de ses affiches et voit le numéro de téléphone et appelle. Et c'est comme ça que c'est parti.
Les frères Ripoulin, c'est bien sûr un clin d'œil à la pub du tout début du XXe siècle, des frères Ripollin, puisque c'était...
Exactement, c'est un pied de nez, je pense, justement, à cette peinture classique, parce que pour les gens qui ne le savent pas, la peinture Ripollin, c'est la peinture avec quoi on peint sa salle de bain, quoi. Et eux, ils peignaient leurs affiches avec ça.
Il y avait quand même une grande inventivité dans les noms d'artistes qu'ils se trouvaient. Dans votre livre, j'ai noté aussi qu'il y avait un groupe, je ne le connaissais pas du tout, qui s'appelait les Musulmans Fumants.
Il y en a plein. Il y a Frère Ripoulin, il y a les Vive la Peinture, les Musulmans Fumants. Qu'est-ce qui me vient d'autre là tout de suite
Mais pourquoi ils jouent avec ce nom-là, ces titres-là? Pourquoi ils ne mettent pas leur nom? Pourquoi il y a cette idée de dissimulation? Parce qu'il y a aussi Blake Le Rat, Stéphane Trois-Carré, même JR aujourd'hui, qui est un artiste de rue et que l'on ne connaît que sous ses initiales.
Déjà, je pense que quand on s'exprime dans la rue et qu'on n'a pas forcément le droit, prendre un pseudonyme, c'est quelque chose de bien. Je pense que aussi, ça fait partie de ce nouveau personnage qu'on peut se créer. Perdez pas de vue que c'est des gens que tout le monde est jeune, hein, quand on commence. Donc, vous avez 14 ans, peut-être que vous allez vouloir vous appeler. Je sais pas, que si vous aviez pris un tag, ça aurait été quoi votre tag ou...
Oh, alors là, non, à la colle. Alors, non seulement peut-être que je n'y ai pas pensé, mais si j'y ai pensé, j'ai tout à fait oublié.
Tout ça pour dire que...
C'est vous, c'est, à 14 ans.
Alors moi, j'ai longtemps eu pour tag Saddam, alors vous voyez.
Ah oui, aujourd'hui, c'est plus compliqué.
Mec, j'avais choisi pour justement l'impact du nom qu'il avait.
Alors, il y a aussi John Wan, si on veut donner quelques noms d'artistes du street art, John Wan qui va quitter Harlem pour Paris et qui va donc passer des métros new-yorkais à la toile.
Premier regard sur la peinture, c'était les mouvements des couleurs ou des mouvements des choses figuratives abstraites, ou mouvements des choses figuratives ou représentatives sur les métros new-yorkais. Et cette flash des couleurs, pour moi, c'était plus qu'un flash des couleurs, c'était une émotion. Une émotion qui sortait d'un tunnel. Et moi, je voulais reproduire ce même type d'émotion que je sentais quand je attendais pour le métro. Donc, j'essayais de mettre ça en pratique et avec mon mélange de couleurs, parce que je suis avant tout un bon coloriste, j'ai créé un esprit dans ma peinture, une énergie. Mais quand même, je reste fidèle à écrire comme un homme, tu vois, Jean-Juan 156. Je n'écris pas des autres choses dessus. Je ne diversifiais pas les messages, tu vois.
Un seul mot sur les tableaux de John Wan, donc son nom et le nom de son collectif 156. C'est ça qu'on appelle le blaze, non, Karim Boukercha?
Le 156, c'est son groupe. Donc, dans un groupe, on a plusieurs peintres et John Wan, c'est son tag.
Mais c'est une signature comme Léonard de Vinci signait, ou c'est plus que ça? C'est une revendication.
Bah, disons que dans le graffiti, l'œuvre, c'est la signature. C'est pas juste quelque chose qui vient indiquer qui l'a fait. Donc c'est un peu différent.
John Wan est encore très actif aujourd'hui. Oui. Il a malgré tout abandonné plus ou moins la rue, non? Vous dites qu'il fait partie de la scène post-graffiti. C'est quoi?
Bon, on peut encore voir quelques œuvres de John Wan dans la rue.
À Paris.
À Paris, bien sûr, et puis il voyage beaucoup. Il faut voir que John Wan, alors c'est un cas qui d'ailleurs va, dans son histoire, doit beaucoup à Agnès, hein, il le dit dans le livre. C'est quelqu'un qui donc faisait partie de la dernière scène du graffiti sur métro à New York, de ce qu'on pourrait appeler l'âge d'or de cette discipline là-bas, donc qui se termine au milieu des années 80. Et puis à ce moment-là, il y a des graffeurs américains qui commencent à venir en Europe pour faire des expositions, exposer, et John décide de tenter sa chance. Donc c'est vraiment des gens qui viennent pour peindre exclusivement des toiles, même si évidemment il a un peu peint dans la rue à Paris, etc. aussi. Et puis pendant très très longtemps, alors aujourd'hui John, il est connu mondialement, il vend plein de toiles, mais pour le connaître depuis très longtemps, je me rappelle rien que au début des années 2000 encore, j'allais le voir dans son atelier, il peignait toute la journée, et c'était dur de joindre les deux bouts. Donc c'est des gens qui aujourd'hui ont réussi, mais qui ont vraiment travaillé pour réussir.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu un dévoiement de l'art urbain s'il se retrouve maintenant dans les galeries et dans les salles de vente aux enchères?
Comme toujours, quand le marché s'empare de quelque chose, après c'est un peu différent pour les gens comme John, comme Futura, parce qu'en fait c'est des gens qui en effet ont eu leurs premières émotions autour de la peinture avec le graffiti et tout ce que ça peut comment on appelle ça, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire, enfin voilà, vous m'avez compris,
provoquer
exactement. Mais en fait, en réalité, c'est des peintres, c'est-à-dire qu'ils cherchent avant tout à peindre, et c'est pour ça que ils ont après trouvé vraiment leur support avec la toile.
Donc 21 millions 8 d'euros pour La fille au ballon de Banksy, rebaptisée Love is in the bin, c'est-à-dire l'art est dans la poubelle après sa destruction partielle en 2018. Pour vous, c'est de l'art, c'est du marché, c'est de la spéculation, c'est logique?
Ouais, pour moi, ça peut être à la croisée des chemins, en fait. Hein. Ça, l'un n'empêche pas l'autre. Après, Banksy, c'est quelqu'un qui travaille autour de la dérision, finalement. C'est quelqu'un qui fait une satire de tous ces mondes-là. Son film « Faites le mur », c'était déjà ça. Les œuvres de Banksy, en effet, sont satiriques. Et c'est assez marrant qu'il joue avec le marché de l'art de cette manière, quoi.
Mais il n'est pas dans votre livre?
On en parle parce que, en fait, Banksy a été un des premiers street artistes à faire que les cotes d'école. Donc après, il a pas travaillé avec Agnès, mais on a un pochoiriste qui s'appelle Black Laura, dont la carrière a explosé en 2006, alors que ça faisait 10 ou 15 ans qu'il avait plus du tout vendu de toile, parce que Banksy a déclaré dans une interview que tout ce qu'il faisait, Black Laura l'avait fait 20 ans avant.
Comme quoi, ça tient un peu.
Voilà, bah, ça tient à une citation de Banksy pour le coup.
Karim Boukercha, on n'en est pas à ses sommets, mais quand même, toutes les semaines, ici dans l'émission, dans De Vive Voix, on retrouve Lucie Bouteloup pour sa puce. Et elle a la côte.
La puce à l'oreille.
Bonjour Lucie.
Bonjour Pascal.
La puce aujourd'hui est donc en haut de l'affiche.
Oui, enfin tout est relatif. Et si j'utilise cette expression, eh bien c'est précisément parce que quand je vous dis que tout est relatif, vous pensez à un célèbre chercheur. Pourtant, vous allez voir, la question de la relativité pose tout un tas d'autres questions. Pour en parler, je reçois Étienne Klein, il est physicien et philosophe des sciences. Les enfants, eux, ne s'en sont pas trop mal sortis.
Tout est relatif, ça veut dire tout est relié. Par exemple, si je dis la pollution, ça engendre le réchauffement climatique, et tout est relatif. Genre, quelqu'un qui jette son déchet par terre, c'est relatif au réchauffement climatique.
Je sais pas, en même temps, je sais ce que ça veut dire, en même temps, je sais pas. C'est horrible, c'est difficile comme notion.
Moi, je pense que relatif, c'est plutôt quand c'est pas très net, enfin, quand c'est pas clair.
C'est pas Einstein?
Qui c'est Einstein?
Einstein, c'est le scientifique là avec les cheveux blancs.
Je crois qu'on a gardé son cerveau, non? Y'a pas une histoire comme ça?
Et alors?
Tout est relatif, ça veut dire que tout est vrai. Je crois que c'est ça que Einstein voulait dire.
La puce à l'oreille.
Bonjour Étienne Klein. Alors on l'a entendu, c'est pas très facile cette notion pour les enfants. Tout est relatif, qu'est-ce que ça veut dire exactement?
On appelle relatif ce qui n'est pas absolu. Ce qui n'a pas de socle qui permette de faire de cette vérité, s'il s'agit d'une phrase, par exemple, quelque chose qui ne dépend pas du point de vue. Tout est relatif, ça veut dire que à chaque fois qu'on juge de quelque chose, le point de vue depuis lequel on parle a un effet sur ce qu'on pense. Donc il n'y a rien qui soit absolu. Le problème, c'est que cette phrase est souvent utilisée pour résumer la théorie de la relativité d'Einstein, qu'il a publiée en 1905. On dit Einstein a dit tout est relatif. Or, Einstein n'a jamais dit cela.
Alors, qu'est-ce qu'il a dit?
Il a dit qu'en fait, quand on change de repère, de référentiel, il y a des choses qui sont modifiées, puis il y en a d'autres qui ne sont pas modifiées. Par exemple, la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, elle est la même dans tous les référentiels. Quelle que soit la vitesse à laquelle vous vous déplacez dans l'espace, la lumière par rapport à vous a toujours la même vitesse.
Donc, il ne s'agit pas ici de quelque chose de relatif, il s'agit d'une certitude, d'une vérité.
D'une grandeur absolue. Une grandeur qui ne dépend pas de la vitesse, de la position de l'observateur qui mesure cette vitesse ou bien de la source qui a émis la lumière. Et donc la théorie de la relativité, c'est une théorie de l'absolu. Elle nous dit ce qui ne change pas quand on change de référentiel.
Donc il y a un contresens total entre l'origine de cette expression qu'on attribue donc à Einstein, la théorie de la relativité qui est en fait une théorie d'absolu, et tout est relatif pour dire qu'on peut interpréter une chose de mille façons en fait.
Oui, c'est une contradiction par rapport à ce que dit la relativité, mais c'est aussi une phrase qui se contredit elle-même. Parce que s'il était vrai que tout est relatif, il serait relatif que tout est relatif.
Alors ça voudrait dire que rien n'est vrai.
Alors ça voudrait dire que le fait que tout soit relatif n'est pas absolu, c'est relatif, donc c'est pas complètement vrai.
On n'est pas sorti de l'auberge.
On peut faire pire, moi j'ai vu une manifestation l'autre jour qui passait devant chez moi. Quelqu'un allait manifester contre les passes sanitaires avec une pancarte sur laquelle est écrit « tout est faux ». Mais si tout est faux, ce qui est écrit sur la pancarte qui dit que tout est faux est faux. C'est ce qu'on appelle des phrases autoréférentes. Il y en avait beaucoup en 1968 sur les murs de la Sorbonne, mais les enfants n'ont pas connu ça. Par exemple, il est interdit d'interdire, etc., etc.
Qu'est-ce qu'on peut trouver comme synonyme à cette expression « tout est relatif » Une expression qui est encore très utilisée. Hein.
On peut dire « tout se vaut » ou « toutes les opinions se valent, se défendent ». Tout le monde a ses raisons.
Chacun voit midi à sa porte.
Exactement, chacun voit midi à sa porte. Ça veut dire que chacun considère qu'il est le bon référentiel pour juger comme il faut de la situation présente.
Merci Étienne Klein d'être venu apporter votre éclairage dans la puce à l'oreille. Je rappelle que vous venez de faire paraître 150 drôles d'expressions pour amener sa science et que c'est paru aux éditions Le Robert. Au revoir.
Au revoir et merci à vous.
Merci beaucoup Étienne Klein, merci Lucie. Tout est relatif. Cette phrase a-t-elle été un jour un graphe, Karim Boucherka? Parce que ça pourrait ressembler à un graphe, tout est relatif.
Pas que je sache. Je ne l'ai jamais vu en tout cas.
Quel est le graphe qui vous a le plus marqué, qui vous a le plus ému, qui vous a un jour fait vous arrêter dans la rue?
Il y avait un mur d'un graffeur qui s'appelle Motou et quelques autres artistes qui étaient avec lui ce jour-là, qui étaient au bord des puces de Montreuil et qui faisait une vingtaine de mètres de long et qui était magnifique. Je l'ai découvert quand j'avais 14 ans et j'allais très très fréquemment le voir un peu comme en pèlerinage.
Il y avait marqué quoi?
Il y avait plein de lettrages dessus, des personnages. C'est plus une composition et une énergie en fait qui était vraiment géniale sur ce mur-là.
Sur les puces de Montreuil. Ben, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Mystique qu'on évoquait tout à l'heure, où elle dit « Soyez heureuse avant de découvrir le bonheur ». Merci beaucoup Karim Boukercha. Votre livre que vous signez avec Gauthier Bischoff, « Sur nos murs, 40 ans de graffiti » avec Agnès B. est édité chez Textuel. Et bien sûr, pour qui serait à Paris, l'expo correspondante est à voir à la FAB, qui est accolée à la galerie Agnès B. dans le 13e arrondissement. Place Jean-Michel Basquiat, ça ne s'invente pas et c'est jusqu'au 18 décembre. De vive voix, Pascal Paradou, Cécile Lavolo, Jérémy Bessé. À demain.